Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur Canal Académie qui vous entraîne dans cette émission pour un voyage de rêve, l'un de ces voyages qui a fasciné nombre d'écrivains et d'artistes, l'un de ces voyages incontournables pour toute personne cultivée. Je veux parler, vous l'avez deviné, de l'Italie, terre de soleil, de lumière, de beauté, de création artistique et jardin de l'Europe. Et pour ce faire, nous ne pouvions trouver meilleur guide que l'universitaire italien le plus français qui soit, Giovanni Dottoli, professeur de langue et de littérature française à l'université de Bari. Bonjour Giovanni Dottoli.
Bonjour Madame Renard, bonjour à tous les auditeurs.
Et merci d'être venu à Paris spécialement pour parler dans notre studio de votre dernier livre, enfin qui n'est pas le dernier, mais l'un des derniers. Jardin d'Italie, voyageur français à la découverte de l'art de vivre. C'est paru fin 2008 aux éditions Honoré Champion et c'est préfacé par le poète amoureux de l'Italie, lui aussi, Yves Bonnefoy. Giovanni Dottoli, excusez mon impertinence, mais n'y avait-il pas déjà eu de nombreux livres sur les voyages des Français en Italie?
Bien sûr.
Vous n'êtes donc pas le premier à développer le sujet. Alors, en quoi votre approche est-elle différente?
Alors, bien sûr, on a déjà eu beaucoup de recherches, beaucoup de livres concernant ce sujet, notamment, surtout des anthologies, donc des textes ou, disons, présentés par thème, la religion, les villes, le soleil, etc., ou présentés par auteur. Mon approche est tout à fait différente, c'est-à-dire que j'ai voulu un peu faire la synthèse de l'image que l'Italie donne aux Français, pas à telle époque ou telle époque, mais du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, vraiment nos jours aujourd'hui même. Et le résultat de cette recherche a été étonnant, c'est-à-dire que j'ai compris que Jean Cocteau avait tout à fait raison quand il disait que les Italiens sont des Français de bonne humeur. Ce qui confirme que nos peuples sont pas des cousins, mais des frères, qu'entre ces deux pays latin, il y a une fraternité, si ce n'est qu'une sororité, à tout point de vue. Alors, ce qui est fondamental pour moi, c'est que ce voyage qui part de la fin du Moyen-Âge a plusieurs raisons. Et vous venez de le dire, la raison du rêve, la raison du soleil, la raison de la vie, mais surtout, c'est le sous-titre de mon livre, cette découverte de l'art de vivre. Et là, je suis parti des thèses de mon ami Dominique Fernandez, qui, comme vous le savez, les auditeurs le savent parce qu'il a souvent été ici à Canal Académie, il a vécu à Naples. Il vit même à Naples, il a gardé une maison à Naples et il est toujours intéressé par cet aspect de la vie réelle, pas seulement par l'histoire, par la Grèce, Rome, les Latins, etc., les monuments. Tout ça, ça appartient, disons, au livre recherche que l'on a présenté jusqu'à ce moment. Mais l'art de vivre, c'est-à-dire la façon de laquelle l'Italien vit dans la vie, vit la vie comme un théâtre. Et l'art de vivre, c'est quelque chose de plus complexe. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas le Colisée, ce n'est pas la promenade de Naples, ce n'est pas le dôme de Florence ou Giotto ou Botticelli, etc. Tout ça, ça rentre dans l'imaginaire européen et français à l'égard de l'Italie. Mais l'art de vivre, j'insiste, c'est cette capacité étonnante des Italiens et des Italiennes, surtout, de vivre la vie telle qu'elle, comme si c'était du théâtre. Tout Italien est une sorte de personnage qui se métamorphose tous les jours, qui se dédouble, qui regarde le monde, disons, comme si la vie devait de toute façon passer. Donc, il vaut mieux l'affronter avec énergie. Et je pense à Stendhal, qui parlait toujours de la grande énergie des Italiens, notamment des femmes du Nord et du Sud. Il faut l'affronter aussi en suivant le courant, c'est-à-dire ça va passer, ça va. Et là, tout le monde est frappé, tous les Français à l'unisson sont frappés par les villes du Sud, et notamment par Naples et par la Sicile, où cette idée de sensualité du cours du temps est toujours présentée d'une façon profondissime et très poétique. Stendhal qui arrive à Naples, par exemple, dans les années 20 du 19e siècle, c'était un diplomate, bien sûr, donc même s'il n'a jamais été diplomate à Naples, mais il arrive toujours avec cette tête diplomate, donc il regarde les Italiens avec une certaine distance. Et là, il arrive et il est impliqué, il se sent plus italien que les Italiens. Il va au théâtre San Carlo, il est abasourdi par ce spectacle baroque qui n'est pas seulement spectacle de la scène, c'est de la pièce qu'il voit, l'opéra qu'il voit, mais plutôt par les Napolitains et les Napolitaines qui sont dans la salle et qui font leur spectacle à eux. Donc c'est ça l'art de vivre.
Absolument. Mais alors votre livre, Giovanni d'Ottoli, je remarque que son titre n'est pas Le Voyage en Italie, ce qui est le titre de Montaigne, de Chateaubriand, de Charles de Brosse, de Dominique Vivant-Denon, de Dominique Fernandez même, et on ne peut pas les citer tous, mais c'est Jardin d'Italie. Alors pourquoi avez-vous choisi ce mot jardin ?
Voilà, je vous remercie de cette belle question. Pourquoi le mot jardin ? Parce que l'idée de jardin, à part l'Italie, disons, fait penser, disons, au cours de la vie de l'homme. L'homme qui naît, l'homme qui vit et l'homme qui meurt, bien sûr, parce que malheureusement, de temps en autre, on passe dans un autre jardin. Et les Français ont eu cette immense capacité de voir mon pays comme une sorte de jardin réel où des plantes, des fleurs, des rivières, des lacs, des images naissent, se développent, fleurissent, et puis ils ont leur vie, adulte, disons, et puis on va vers la mort, vers la fin pour renaître. C'est un jardin qui renaît tout le temps, toujours plus bon. Et c'est une idée presque baroque de la vie, vie qui se métamorphose à la recherche de quelque chose, à la recherche du temps. Et je pense que vraiment les Français ont bien compris le sens baroque de la vie des Italiens. C'est quoi le baroque ? Et le baroque, autrefois, jusqu'aux années 40, 50 et 60, du XXe siècle, n'était pas vraiment aimé en France.
Non, pas encore.
Voilà. Non, mais maintenant, oui, on l'aime.
Maintenant, on l'aime, voilà.
Maintenant, on l'aime, et il y a 40 ans, quand je parlais de baroque, tout le monde me disait, bah, c'est quoi le baroque, ça, c'est négatif.
C'est un peu de mauvais goût, à la limite.
Voilà, mauvais goût. Mais je répondais en disant que le plus grand Français qui a le premier compris le baroque du sud de l'Italie, c'est Paul Bourget, qui arrive à Lecce, à l'extrême sud de l'Italie. Et il est étonné par ces palais dont les stucs, les façades, les courbes des fenêtres, des balcons, des
églises. Toute l'exubérance,
voilà, cette exubérance,
oui.
Mais qui n'était pas de l'exubérance. C'était un côté de la vérité de la vie. L'exubérance de la façade et la stylisation du corps de l'église, du corps du théâtre. Et il a tout compris. Il a compris que l'Italie voyageait entre l'être et le paraître, entre l'énergie, donc l'intérieur, le corps du monument, et l'extérieur qui était le paraître, un peu comme dans le théâtre de Shakespeare. Et il a compris, le premier, même s'il n'a pas vraiment développé, cette théâtralisation de la vie de tous les jours, les marchés, je sais pas, les rencontres, les promenades, les amours. Et tout cela sera développé par Dominique Fernandez, mais d'une façon vraiment extraordinaire.
on va, grâce à vous, relire Paul Bourget, en tout cas.
Ah ben, merci.
On ne lit plus assez. Et vous disiez qu'aussi, c'était un jardin réel, mais il y a aussi un... L'Italie, c'est un jardin imaginaire pour les Français. C'est la pure imagination.
C'est le jardin mythique. C'est le rêve, qui est un rêve réel, réalisé dans la vie. Parce que le Français arrive, il débarque dans telle place, ou sur le bord de la mer, ou en regardant un château ou une église. Et il se trouve face à la réalité. Ce n'est plus l'Italie que l'on a lue dans les livres. Il ne faut pas oublier que jusqu'à il y a 40 ans, tout le monde faisait du latin. Tout le monde faisait du grec, ou la plupart. Maintenant, ce n'est plus comme ça, malheureusement. Donc, il y avait dans la tête des voyageurs cette latinité, cette grécité, ce monde d'autrefois qui résulte à l'origine de la France, de la France comme pays, vraiment, comme réalité. Et donc, on allait à la recherche de sa propre enfance. Mais quand on arrive là-bas, l'enfance, oui, elle était là, dans les monuments. Mais en même temps, il y avait les Italiens réels, les femmes sensuelles de Naples qui parlent comme si elles faisaient l'amour. C'est Stendhal qui le dit.
Alors, c'est une citation.
Ah oui, bien sûr que c'est une citation, Stendhal.
Giovanni d'Ottoli, vous dites dans la page 65 de votre livre, justement, que les voyageurs, bien sûr, sont frappés par la lumière, le soleil. Et vous écrivez « L'écriture des voyageurs français se comporte comme peinture entre ombre et lumière, jour et nuit ». Alors, expliquez-nous un petit peu ça. L'écriture des voyageurs français qui vont en Italie.
C'est tout à fait vrai. Je me suis intéressé à l'écriture des voyageurs en général le long de mes recherches, mais là, j'ai trouvé encore une fois que l'écrivain français, de n'importe quel type, donc l'écrivain attitré, Stendhal ou Chateaubriand ou Paul Morand, ou l'écrivain de passage, c'est-à-dire un archéologue, un soldat, un général... un amoureux qui est venu comme ça pour aimer l'Italie et qui puis a senti le désir d'écrire ses sensations, il s'est toujours trouvé dans ce passage lumière réelle du golfe de Naples par exemple, mais en même temps l'ombre des maisons. C'est toujours le système du baroque. Les grandes façades, c'est la lumière, et puis la partie que l'on ne voit pas, parce que ce n'est pas important, même si ce n'est pas vrai, que ça, c'est la nuit. Or, il se trouve que dans le théâtre européen, et surtout dans le théâtre français, on a exactement le même système. Ombre et lumière, nuit et jour, c'est-à-dire c'est comme notre corps. Notre corps, c'est la vérité intérieure, la vérité extérieure. C'est le passé et l'avenir. C'est la raison
c'est
et la déraison. Voilà, ah, oui. C'est toujours ce mouvement double du temps que les Français voient en Italie plus que d'autres.
Alors, les Français ont-ils des villes de préférence? Vous avez dit qu'ils aimaient beaucoup le sud, mais est-ce qu'il y a aussi des villes du nord? Je suppose qu'ils aiment Rome, bien sûr.
Disons qu'il y a le grand voyage classique qui fait Milan, Venise, Florence, Rome et Naples, bien sûr. Mais ça, c'est ce qu'on a appelé au cours de l'histoire le Grand Tour. Mais ce Grand Tour, qui est d'origine anglaise, c'est en Angleterre que le Grand Tour est né, s'est transformé pour les Français toujours à cause de la réalité vue, réelle et décryptée et décrite et écrite, en un élargissement du visage de l'Italie, du jardin d'Italie. Et donc, il n'y a plus de différence entre la grande ville, la place du Dôme à Florence, ou la place de Michel-Ange à Rome, là devant le Vatican, devant l'église Saint-Pierre, et la petite rue d'un petit village du sud. Et quelqu'un, je crois que c'est Stendhal, dit une chose extraordinaire qui est la réalité réelle même de nos jours. Stendhal dit, en Italie, toutes les 10 lieues, le visage des villes et des femmes et des hommes change. C'est ce monde multiforme qui représente un peu la pluralité de la Méditerranée dont parle Brodel, le grand historien de la Méditerranée. Et c'est ça la richesse de l'Italie. Le fait que tous les 10 kilomètres, on change de patois, on change de visage,
de paysage.
On change de langue, de paysage. Et cela représente non seulement la Méditerranée, mais aussi la grande migration des peuples de l'extrême et du Moyen-Orient vers le sud de l'Italie, qui, au cours de l'histoire, a toujours été un rêve, et c'est le cas encore de nos jours. Donc, je sais gré aux Français d'avoir bien compris cet axe multiforme, ouvert et en même temps profond.
Giovanni Dottolio, il faut parler aussi de cette extraordinaire, exceptionnelle bibliographie dans votre livre « Jardin d'Italie ». Elle ne fait pas moins de 57 pages, je les ai comptées. Comment avez-vous établi, il y a là vraiment toutes les références que l'on peut trouver par rapport au voyage, aux voyageurs, à l'Italie, du Moyen-Âge à nos jours.
Toutes, dans la recherche, toutes.
Avec 57 pages, vous avez la place en citer.
Mais j'ai voulu vraiment insister sur cette multiformité de regards, du soldat jusqu'au grand écrivain, comme je l'ai dit, du prêtre qui arrivait à Rome pour des raisons religieuses, au petit moine qui allait en pèlerinage vers la Terre Sainte en passant le long de l'Italie, qui tombait amoureux d'Italie, ou bien les grands voyageurs comme Flaubert, qui viennent en Italie de l'autre côté, pas du nord, mais qui viennent d'Orient.
Qui
s'arrête dans les pouilles, là, il regarde. Ça arrive souvent que quelqu'un arrive de Malte, arrive du Caire, arrive d'ailleurs. Donc, c'est une Italie qui est prise de tous côtés. Alors, cette bibliographie voudrait être complète, mais surtout pour pousser d'autres chercheurs à étudier l'Italie comme un symbole, non seulement de l'art de vivre, mais comme un symbole de matériaux pour la recherche à tout point de vue, de l'archéologie jusqu'à la sociologie, à l'ethnologie, à la politique, à la religion, à l'histoire. Il y a vraiment beaucoup de matière là
à exploiter. Avis aux amateurs qui veulent chercher. Avant de nous quitter, Giovanni Dottolio, dites-nous s'il vous plaît, si cela vous plaît, un mot sur le poète Yves Bonnefoy qui a préfacé votre livre.
Ah ben là, vous m'invitez aux noces les plus belles de notre vie.
Moi, et de son Italie à lui.
J'adore Yves Bonnefoy. J'ai écrit un livre sur lui dont on a parlé à Canal Academy, c'est-à-dire mon livre Yves Bonnefoy dans la fabrique de la traduction. Mais là, pour ce livre, je l'ai rencontré plusieurs fois et j'ai adoré ses pages sur le baroque de Rome. Yves Bonnefoy aussi, c'est l'un des premiers à comprendre le baroque. Son livre sur le baroque de Rome date des années 60, donc il y a 50 ans. Et il est toujours encore tout à fait valable. Il est toujours projeté sur l'avenir. Ces pages magnifiques sur l'Ombrie, sur la Toscane, sur une petite île qui est l'île Capraia, ça s'appelle. C'est une petite île qui fait partie de la province de Livourne, qui est entre la côte tyrrhénienne et la Sardaigne et la Corse. Et c'est là, dans cette petite île, qu'il place le cœur de l'italianité et du rêve italien, le jardin d'Italie. Et dans une autre petite ville tout à fait inconnue, si on demande à un Italien mais où se trouve cette ville, on ne sait pas. La petite ville, le petit endroit, c'est 2000 habitants, s'appelle Monterchi. Ce Monterchi, c'est entre Florence et Pérouse. C'est une petite ville perchée dans les montagnes où il voit vraiment ce qu'il appelle l'arrière-pays. C'est le titre d'un de ses livres sur l'Italie. L'arrière-pays, c'est quoi? C'est un peu l'infini de Leopardi. C'est-à-dire, il y a un horizon et le poète, l'écrivain, le voyageur, des personnes comme nous, regardent au-delà de cette ligne. Et au-delà de cette ligne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le rêve réel. Et même si on se déplace, et Bonnefoy le dit très bien, et on arrive vers l'horizon, la ligne s'est déplacée. Donc le rêve ne meurt jamais. Il existe toujours. Et là, je sais gré à Yves Bonnefoy de m'avoir fait cette belle préface qui est née du fait qu'il est un amoureux d'un grand Français un peu oublié de nos jours qui s'appelle Émile Berton, qui, avant la Première Guerre mondiale, a fait un grand voyage dans les terres du sud de l'Italie pour préparer sa grande thèse, l'art méridional de l'Italie, et où il donne des photos d'époque, bien sûr, des monuments, que Yves Bonnefoy adore. Donc cet amour, Bonnefoy d'Ottoli, est né de ces visions imaginaires d'Émile Berthaud du sud de l'Italie. Mais puis du sud, on est remonté au nord et à Paris.
Non seulement vous nous donnez envie de relire des écrivains qu'on a un peu oubliés, mais on a envie d'aller en Italie voir tout ce dont vous parlez, bien sûr. Alors, si vous me le permettez, je voudrais, pour terminer, vous citer une phrase du chapitre de votre conclusion. Le jardin d'Italie nous indique qu'il faut être contre la massification des jardins et de la vie et qu'il faut suivre son cœur, ses désirs, sa liberté dans une jouissance contemplative. C'est le credo de Giovanni d'Ottoli.
C'est mon credo, mais c'est aussi le credo des voyageurs français en Italie qui vraiment ont compris. Ben, j'insiste sur cet aspect. Les Français voyagent entre l'imaginaire et la réalité, toujours, toute l'histoire de France est comme ça. Donc, vous avez eu la Révolution française parce que ça a été la réalité. Et puis après, c'est le romantisme, donc le rêve.
Voilà, on oscille entre les deux. En tout cas, vous retrouverez Giovanni d'Ottoli dans d'autres émissions, puisqu'il nous détaillera le parcours, le voyage de plusieurs académiciens en Italie. Ça va nous faire une très belle série pour rêver avec vous.
Ce sera un grand plaisir pour moi et pour les éditeurs. Merci.
À bientôt et restez avec nous sur Canal Académie.